Salut Mélissa, on est toujours sur Terre du Son. Alors on peut le dire, hein, le soleil, il est bien réel, on a bien bien chaud, on n'est pas dans une simulation informatique. Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, non pas en termes de phénomènes météorologiques, mais bien en termes de phénomènes acoustiques et musicaux. On est avec deux invités qui sont fantastiques autour de cette table. On a d'abord Jérémy Bénichou. Salut.
Hey, salut.
Alors toi, tu es issu de Divaphone et aujourd'hui tu reviens avec un nouveau projet, c'est Wim Therapy. Et on est également avec Benoît Carré. Alors toi, ton pseudo c'est Skygy, je prononce bien.
Oui, ou Ski.
Skig.
Ou Skige. Skige en fait. Skige c'est un nom danois qui veut dire ombre.
Qui veut dire ombre. Si je le mets dans un vocaliseur artificiel, comment est-ce qu'il le prononce? T'as déjà fait l'expérience?
Je crois qu'il fait, si tu fais danois, il va faire skug.
Skug. Voilà. Et en français, ça donnera...
Il va faire skige.
Skige.
Voire skyji, peut-être. Je sais pas, faut essayer.
Eh bah, ben écoute, en tout cas, bienvenue à toi, skug. Et bienvenue à toi, Wim Therapy.
Salut.
Aujourd'hui, on va bien parler donc, d'intelligence artificielle, notamment dans la musique, puisque vous vous sortez à l'instant de l'éco-village de Terre du Son, où à l'Agora se tenait un TEDx. Vous avez pu donc faire une petite conférence pour parler justement de vos pratiques musicales, puisque d'un côté, donc, Benoît, alors moi, je te connais personnellement, je te rencontre en fait, mais je connais déjà ton travail, et maintenant, je mets un visage sur ce travail, puisque notamment, en 2016 avec le Sony CSL, tu avais composé justement le titre Mr. Shadow, qui est un des, on peut le dire, c'est un des tout premiers titres composés par l'intelligence artificielle.
Composé avec.
Avec.
Ouais.
Parce c'est que comment s'est passé le processus d'ailleurs?
Moi j'étais musicien en résidence dans cette équipe, c'est-à-dire que j'ai aidé les chercheurs à développer cet outil Flow Machines qui capturait le style des compositeurs et qui générait ensuite des partitions. Et en expérimentant, j'ai fait cette chanson Ballad of the Shadow, qui était ma première chanson faite avec une IA.
La toute première. Et tu as continué depuis et tu n'es jamais sorti du bain?
Non, je ne suis jamais sorti du bain parce qu'en fait, on a toujours développé des nouveaux outils et moi, j'ai toujours été inspiré par ce que produisaient ces outils qui étaient vraiment très inspirant quand on cherche la nouveauté en tout cas.
Chercher la nouveauté, d'ailleurs, c'est exactement ce qui t'a conduit à utiliser l'intelligence artificielle dans la musique, Jérémy. Tu te sentais à l'étroit avec Divaphone?
Ouais.
Ouais.
Ouais, non, mais tu sais, on essaye de pas trop le dire comme ça, mais on va dire, on était un peu tombé dans un piège de jeu, de format radio, de quotas, de toutes ces choses un petit peu qui ont tendance à brider la créativité, même si des fois, bosser avec des contraintes, ça peut amener d'autres idées, tu vois. Mais là, il y avait un côté où je commençais à me dire. Qu'il y avait sûrement peut-être des choses un peu plus excitantes à faire, quoi, tu vois, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, hein, tu vois, mais je m'étais dit, allez, qu'est-ce qui se passe si on essaie vraiment de créer en prenant en compte aucun format, aucun bridage, et c'est comme ça que Wim Therapy est né, ouais.
Ouais. Et aujourd'hui, donc, vous avez tous les deux parlé lors de cette conférence TEDx Talk de justement vos pratiques musicales. Vous vous connaissiez avant de faire cette conférence?
Hey, on s'est rencontrés il y a 2 jours. D'ailleurs, on se reconnaissait de nom, tu vois. Moi, je me demandais s'il existait vraiment. T'as envoyé son nom écrit, mais pas sa tête, tu vois. Mais on s'est croisés pour de vrai il y a 2 jours à Liège sur une autre conférence.
Ouais.
Avec des concurrents, donc on n'en dira pas plus, tu vois.
Ouais.
Mais ça a assez vite matché, quoi.
Et ça matche bien. Donc, vous êtes à peu près d'accord sur votre point de vue autour de la musique et l'IA. On peut en parler. Vous avez parlé de quoi durant la conférence?
On a parlé de la façon dont on crée de la musique avec l'IA. Et l'IA, en fait, c'est un terme générique, mais en fait, l'IA, c'est des tas d'outils différents qui ont des utilités différentes en fonction de là où on est dans la composition d'une chanson. Ça peut être au tout début, comme une source d'inspiration, ou ça peut être au milieu, quand on cherche à faire de la prod ou à améliorer sa prod, à lui donner quelque chose d'inattendu. Donc, je pense qu'on a la même approche de créateurs, en fait, de gens qui cherchent. Voilà, qui cherche et qui essaie de trouver.
Jérémy, tu confirmes?
Alors déjà, je confirme et je pense que ça lève déjà d'office un point que je trouve assez intéressant, tu vois, qui est qu'en donnant les mêmes outils à plusieurs compositeurs, tout le monde va sortir des trucs différents. En fait, quoi, tu vois, c'est ça qui est vachement intéressant avec l'IA, c'est que finalement, tu développes un peu un flow qui est fait pour toi, quoi, tu vois. On va pas aller chercher les mêmes choses dans les mêmes outils, quoi, tu vois.
Ce qui va au contre-pied de ce qu'on pourrait imaginer. Généralement, le grand public dit « Oh mon Dieu, l'intelligence artificielle va remplacer les artistes ». Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Non, pour l'instant, ce n'est pas vrai. Peut-être dans quelques années, peut-être. Mais certains artistes ou certains métiers. Mais en fait, là où ce que tu dis, c'est vrai, le côté personnel, personnalisé de l'IA, c'est c'est le musicien ou c'est l'artiste qui nourrit la machine avec ses propres fantasmes musicaux ou ses propres envies. Et c'est ça qui fait que chacun va s'en servir à sa façon. Et donc c'est un instrument très créatif, au contraire d'être un instrument où on est passif en train d'appuyer sur un bouton, c'est pas du tout ça, c'est même l'inverse en fait, ça nous oblige, ça nous challenge. Mmh. On est obligé d'écouter plus les résultats, d'écouter ce que propose la machine, des idées originales qu'on n'aurait pas trouvées. Ouais. Et donc c'est très nouveau, mais peut-être qu'après il y aura effectivement des technologies avec un gros bouton rouge où on appuiera...
Ça lira ton esprit et ça sortira la musique.
Peut-être, mais ça n'empêchera pas les créateurs de créer. Enfin, je pense pas.
Puis il y a aussi vraiment un côté qui, tu sais, un peu, j'ai l'impression que dans chaque un peu nouvelle révolution musicale, il y a, des gens un peu alarmistes qui se disent que tout s'effondre. Tu vois, quand les synthétiseurs sont arrivés, on a dit c'est la fin des orchestres. Quand les boîtes à rythme sont arrivées, on a dit c'est la fin des batteurs. Tu vois, puis tu sais, bah, aujourd'hui, il y a toujours des orchestres, il y a toujours des synthétiseurs, il y a toujours des boîtes à rythme, il y a toujours des batteurs. Et en fait, il y a une place qui se fait pour tout, quoi.
Donc à l'avenir, il y aura toujours des musiciens et des musiciennes, des chanteurs et des chanteuses, malgré l'arrivée de l'IA.
Bah, tu sais, imagine que vraiment, on arrive dans un truc complètement dystopique où tu as un bouton magique qui produit des chansons. Mais t'imagines la valeur du mec qui sait jouer de la guitare et chanter dans un monde comme ça, quoi, tu vois. C'est un truc de fou, quoi. Tu sais, parce que bah, du coup, plus personne sait le faire, les machines savent le faire. Donc d'un seul coup, les musiciens se retrouvent à redevenir ultra cotés, quoi, tu vois. Enfin, je pense que vraiment tout s'équilibre.
Et regarde ce qui se passe avec l'image, Midjourney, toutes ces technologies super avancées, beaucoup plus que pour la musique, parce que la musique, c'est plus compliqué que l'image, en fait. Il y a beaucoup plus de dimensions dans une chanson.
En quoi c'est plus compliqué? C'est quoi ces différentes dimensions que tu as en plus?
Ces dimensions, c'est d'abord la chanson, il faut déjà la composer avec un piano ou avec un instrument. Et puis ensuite, il faut l'arranger, il faut la produire, il faut créer des sons, il faut chanter. Il y a la voix, après il y a les paroles, etc. Donc il y a plein de couches comme ça dans lesquelles l'IA peut intervenir d'une façon très créative et très, très, très excitante pour un artiste. Mais l'image, c'est beaucoup plus avancé parce que c'est plus simple en fait, c'est deux dimensions. C'est couleur, forme, voilà. Et c'est dans un cadre. Et l'IA, là, aujourd'hui, est très, très, très avancée. Et on voit que en fait, ça oblige les artistes à remonter le niveau. Ils sont obligés d'être vraiment plus créatifs parce qu'il y a une IA qui est très forte et qui arrive à générer des images assez convaincantes à partir juste d'un texte. Voilà. Et on les a vus, on a vu le pape en doudoune, on a vu Emmanuel Macron en train de ramasser les poubelles, on a vu des tas d'images qui sont créatives, marrantes, etc. Et je ne pense pas que ça va tuer les graphistes et les photographes, etc. Mais ça va les challenger. Et je pense que la musique, c'est à peu près la même chose. Ce qui se passera si on arrive à faire une IA aussi puissante pour la musique que les Midjourney pour l'image.
Alors, l'intelligence artificielle, tu dis qu'elle est avancée aujourd'hui. Elle avance à quel rythme? Puisqu'en 2016, Mr. Shadow, on peut encore entendre qu'il y a des choses très synthétiques, très numériques. Aujourd'hui, Jérémy, tu sors du coup ton nouvel album « I try to make music with an AI and this happened » et le titre « Let it go ». Ouais. Bah, on dirait pas que c'est écrit par l'IA, ça sonne assez naturel.
C'est notamment parce que c'est pas écrit par l'IA, mais par moi.
Par toi.
J'ai utilisé des IA.
Alors du coup, l'IA est arrivée à quel moment?
En fait, bah, tu vois, quand tu prends Let It Go en exemple, par exemple, c'est vachement intéressant, quoi. Let It Go, c'est une soul très lente, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire que par défaut, moi déjà, je m'étais dit, je veux écrire une soul très lente. J'ai trouvé une grille d'accords, j'ai commencé à trouver des mélodies, et seulement une fois que j'avais la grille d'accords et la mélodie, j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour créer certains éléments rythmiques, certains éléments de texture. Il y avait un moment juste avant le premier refrain, où tu as une sorte de break de l'enfer dans le morceau. Quoi, tu vois. Celui-là, c'était un glitch généré par une IA que j'ai mis particulièrement en avant et adapté à tous les instruments qui étaient déjà dedans, parce que je trouvais que c'était cool, par exemple. Tu vois. Mais c'est pour ça qu'on parle vraiment de création assistée par intelligence artificielle. Tu vois. Tu te dis, ça fait depuis tout à l'heure, tu dis morceau fait par des IA. Il n'y a pas de morceau fait par des IA dans ce qu'on fait. Quoi. C'est vraiment de l'assistance. Quoi,
c'est de l'assistance, c'est ça. Et comme tu le dis, justement, il y a cette impondérable. Ce morceau de son qu'a produit là, que tu as intégré, que tu n'avais pas prévu à la base.
Exactement.
Finalement.
Tu vois, pour moi, l'IA, c'est vraiment un déclencheur de happy accident, en fait. Ouais. Tu sais, il y a un côté où tu peux lui demander des choses et elle va faire ce qu'elle estime être bien pour toi. Mais tu sais, elle n'est pas dans ta tête. Quoi, tu vois. Et donc, du coup, il y a plein de moments où elle va venir te proposer des choses qui sont limite hors sujet. Mais en fait, ce limite hors sujet, c'est peut-être l'épice qui manquait dans ton morceau pour le rendre vraiment intéressant.
Et du coup, à quel rythme est-ce que cette IA, elle avance?
Ça avance très très vite.
Pour donner un ordre d'idée, comment on pourrait quantifier ça?
En fait, c'est d'un mois à l'autre, il y a des nouvelles applis qui sortent et il y a des applis qui deviennent obsolètes d'un mois à l'autre.
Ouais. Voilà,
on est à ce rythme-là.
C'est-à-dire des applications pour les créateuristes de
contenu? Pour les créateurs, ouais, pour les créateurs, des applications qui sont disponibles pour un peu les geeks. Mais ces applications-là sont très fragiles et elles évoluent très vite. Donc ouais, ça va extrêmement vite. Mais par rapport aussi à ce qu'on entend, moi ce que j'aime en fait quand je joue avec l'IA, c'est de faire des morceaux où on entend justement l'IA, où on entend le son des sons qui, moi, me semblent intéressants juste en soi. C'est pour ça que, par exemple, dans Ballad of the Shadow, j'ai gardé vraiment, j'ai gardé le son de l'IA que j'ai aménagé un peu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vraiment au fond du truc et de montrer...
Le parti pris,
pas de le montrer comme une démo, mais parce que moi, je trouve que c'est des sons qui sont en soi sont intéressants, ils sont beaux. Et c'est ce que je vais continuer à faire, en fait. C'est toujours aller au plus proche de ce que ça propose comme truc intéressant juste en soi.
Il y a quelque chose de très proche de la musique expérimentale et électro-acoustique des tout débuts, en fait, de l'électronique dans les années 50. Pierre Henry ou Eliane Radigue en France, ou alors outre-Manche, avec notamment Delia Derbyshire. Est-ce que vous êtes quelque part des nouveaux pionniers?
Moi, j'aurais pas cette prétention, tu vois, mais peut-être que dans 20 ans, on dira sommes-nous, tu crois?
Peut-être. En fait, j'ai l'impression de suivre mon chemin, en fait, d'auteur-compositeur, de musicien. Ces nouvelles technologies, comme tu dis, elles provoquent des accidents, des trucs. Elles proposent de la musique originale par rapport à ce qui est vraiment nouveau par rapport à tout ce qui existe.
Et vous jouez avec la matière.
Et on joue avec une matière qui est proposée, qui est inédite, qui est faite. Par nous, à travers nous, en nous. Amen.
C'est voilà. Beau.
Et finalement, ça va en l'encontre. Tu parlais tout à l'heure avec Divaphone, vous étiez enfermé dans des codes commerciaux, justement, les quotas. On est à l'encontre de ça, justement, avec cette matière qui parfois est très peu... le public, est-ce que le public est habitué, en fait, à cette matière-là?
Il va falloir qu'il s'habitue, non?
Ouais, je pense que c'est quelque part, c'est peut-être même notre rôle de venir un peu, on va dire, quand je dis l'éduquer, le but c'est vraiment pas d'être condescendant du tout, tu vois, mais peut-être juste de leur montrer, la première fois ça va leur faire bizarre, puis après ils vont peut-être trouver ça cool, et ça se trouve à la fin ils vont vouloir écouter plus que ça, tu vois. Je pense que nous, en artistes, notre rôle c'est de proposer quelque chose, tu vois, ensuite c'est les gens qui décident si ça leur plaît ou pas.
Justement, j'allais dire, comment apporter de la musique de niche au grand public et leur faire apprécier?
Peut-être qu'il va y avoir... En fait, pour l'instant aussi, il n'y a pas une intelligence artificielle ou un outil qui est utilisé de façon massive par les musiciens. On est vraiment assez peu à s'en servir. Donc, peut-être qu'il va falloir que ça soit un petit peu plus démocratisé pour qu'il y ait un son qui émerge à un moment donné et qui soit un succès planétaire. Je pense que ça peut arriver, mais il faudrait que ce son-là, en tout cas, il ait une identité très particulière, qu'il soit vraiment nouveau, mais qu'il ne soit pas trop nouveau, parce que sinon, les gens ont peur ou ils ne reconnaissent pas. Il faut qu'il y ait un bon équilibre entre la familiarité et la nouveauté.
Tu veux dire une espèce de signature sonore IA, tu sais, oui. Où tu entends un truc et tu peux tout de suite dire « Ah bah attends, voilà. Ça c'est de l'IA, quoi. »
Un peu comme l'autotune. L'autotune, ouais. Aujourd'hui, c'était une technologie qui était utilisée vraiment au début pour permettre aux gens de chanter pas trop faux, et puis qui a été utilisée massivement. Et qui est devenu aujourd'hui une signature. Peut-être que on n'est pas encore à ce niveau-là sur l'IA, mais peut-être qu'il y a un moment donné où il va se passer quelque chose comme ça. Et c'est imprévisible. Je pense que personne n'avait prévu que en 2023, tout le rap français et l'urbain mettraient le volume, enfin l'effet autotune à 11, quoi. Personne. Donc c'est difficile de prévoir quand vous posez cette question.
Ouais, moi je t'avoue que j'aurais même du mal à me placer là-dessus, parce que c'est un peu comme si tu disais à une image qu'elle avait une signature Photoshop. Tu vois quoi, tu sais, c'est à partir du moment où c'est des outils et qu'on peut les utiliser vraiment comme on veut, et que chaque personne qui les utilise obtient des résultats différents, c'est compliqué de parler de signature aussi dessus, quoi, tu vois.
Alors justement, moi j'avais une question, je prends la balle au bon sur cette idée de collaboration outil-artiste. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va, disons, tirer les artistes vers un statut qui serait plutôt un statut d'artisan? Ou de dire finalement, est-ce qu'il y a une idée d'artisanat, puisqu'il y a toute cette matière sonore qui existe, qui va s'auto-générer, peut-être se transformer, s'augmenter. Donc finalement, est-ce que ça va être l'art d'agencer toutes ces choses? Et est-ce qu'on peut se dire, peut-être pour certains jeunes qui aimeraient être musicien amateur, mais qui freinent des quêtes sabots à l'idée du solfège, de se dire adieu solfège, et que là on va pouvoir être musicien autrement?
C'est genre mon rêve, ce que tu dis, tu vois. Vraiment, je te jure, c'est un truc qui me fait rêver. J'espère vraiment que ça va pouvoir arriver. Tu sais, qu'on va pouvoir un peu briser cette espèce de frontière où le fait d'être artiste va nécessiter avant tout un gros apprentissage de solfège, de théorie, d'instruments. Mais que finalement, n'importe quel gus qui arrive avec 2-3 idées, il va pouvoir faire un album, tu vois. Moi, ça fait partie des choses que je trouverais super excitantes, tu vois. Et Mais au-delà de ça, je veux dire, aujourd'hui, le boulot de beatmaker, notamment aujourd'hui beaucoup dans le rap, c'est déjà un boulot de curateur, en fait. Quoi, tu vois, c'est les gars, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur une plateforme qui s'appelle Splice ou ailleurs, ils samplent un petit bout de morceau, de quelque chose, de quelque part. Ils utilisent ce petit bout-là et ils vont venir juste construire une batterie, une énorme basse derrière et construire la boucle de façon à ce que le mec puisse poser dessus. Donc en fait, on est déjà dans un truc de curateur où les mecs, là, 90% des beatmakers touchent pas à un instrument et ça leur empêche pas de choper des disques de platine un peu dans tous les sens. Donc en fait, ça, on y est déjà. Par contre, là où ça devient assez excitant avec l'IA, c'est que la matière qui est aujourd'hui finalement, on va dire, limitée par tout ce qui existe déjà, on va complètement sortir de ça parce qu'on va retrouver quelque chose qui est infini.
Ouais, c'est ça, on va se retrouver, les musiciens en fait vont être de plus en plus des directeurs artistiques. Ils vont diriger avec leur des temps d'écoute, des temps de sélection, ils vont diriger leur travail comme ça, quoi. Et ce qu'apporte l'IA, c'est la personnalisation, effectivement. C'est au lieu d'avoir un splice, un marché dans lequel tu vas puiser des sons, ce qui est le cas aujourd'hui, on va pouvoir interagir avec ce marché et lui demander de faire des choses qu'on aura nourries avant avec nos propres inspirations. Je pense que c'est un peu le futur, ça.
Et sachant qu'il y a probablement un moment où elle va pouvoir s'auto-nourrir aussi, quoi, tu vois. Et là, ça va devenir complètement hallucinant.
Ouais, comme ChatGPT aujourd'hui qui s'améliore, qui peut s'auto-améliorer. Mm-hmm. Et là, du coup, oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus flippant, mais peut-être que ça va apporter une richesse supplémentaire, des sons peut-être complètement nouveaux, là, du coup. Que l'IA aura créé en s'entraînant elle-même.
Assez dingue. L'IA deviendrait elle-même un ou une créateur, artiste.
Ouais, ouais. Ouais.
Du coup, c'est quoi le genre de l'IA d'ailleurs ? C'est il ou elle ?
Ah, c'est Yel.
Je crois qu'on est sur un truc où tu peux y aller autant que tu veux. Quoi.
C'est DAS. C'est IT. C'est DAS.
C'est DAS.
Ouais. C'est neutre.
Ouais. Allez, et je vais dans une toute autre direction. IA, intelligence artificielle et inclusivité.
Ok, vas-y.
Genre juste, je pose le thème, il n'y a pas de question. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça ? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière ?
Allez, c'est parti. En fait, je pense IA et biais.
Biais ?
Parce que l'IA, comme tu le sais, c'est entraîné sur du matériel, sur des données, une base de données. Ces bases de données, elles sont souvent biaisées. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai été invité en Arabie Saoudite pour faire un atelier avec des musiciens là-bas. Et je me suis intéressé à la musique arabe. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'arrive à créer un outil qui prenne en compte la note bleue, la note arabe, en fait, qui est entre majeur et mineur.
Ouais.
Cette note-là...
On ne l'a pas dans le monde occidental.
Elle n'est pas dans le monde occidental. Non, elle n'est pas dans les gammes. Et donc, là, il y a un biais. Il y a un problème d'inclusivité, en tout cas avec la musique, par exemple, arabe. Et il y a un problème, là, qu'il faut vraiment essayer de résoudre, parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire avec toutes ces... Et l'IA pourrait être très puissante pour intégrer des musiques du monde, indiennes, arabes, etc., pour faire une espèce de grande base de données où il y aurait des mélanges, alors là, complètement nouveaux. Ça, c'était mon point.
J'ai pas mieux. Hein.
Tu penses exactement pareil.
Ah bah moi, je pensais rien.
Et tu pensais rien.
Du coup, maintenant, je pense comme lui.
Ok. Ah oui, bah alors peut-être pour les personnes qui nous écoutent, hein, les intelligences artificielles se basent sur des bases de données. Et en effet, selon avec quoi on nourrit cette base de données, en effet, il y a donc des biais qui peuvent intervenir. Donc c'est ce qui explique justement le propos que tu viens de développer. Fantastique. Cette IA, elle nous apporte plein de nouveaux outils. Finalement, elle n'est pas une menace. C'est ça qu'on peut retenir
Pour l'instant.
Ouais, moi j'ai
pour
pas
l'instant.
En fait, je pense qu'elle peut l'être pour ceux qui veulent absolument conserver un truc méga traditionnaliste et qui refusent absolument d'évoluer. Et il y a un moment où ils vont devenir obsolètes. Quoi, tu vois, mais par contre, à partir du moment où tu commences à l'utiliser comme un nouvel outil, en fait, ça te décuple les possibilités de ce que tu peux faire. Du coup, c'est super intéressant.
Ouais, et puis l'IA, en fait, c'est pas tellement le problème, c'est plutôt les gens le problème.
Ouais.
C'est plutôt les gens qui vont exploiter ces technologies très puissantes et qui peuvent effectivement à des moments spolier les artistes en tenant pas compte du droit d'auteur ou du droit d'interprète.
J'ai l'impression qu'on parle du golem en fait en parlant de cette IA. Mais moi j'avais une autre question sur l'idée de ce que, comme on disait, potentiellement peur sur la vie, l'intelligence artificielle va remplacer les humains. Et alors, peut-être que la différence, c'est de dire, est-ce que c'est vrai de dire l'IA n'a pas d'émotion et peut-être qu'elle n'a pas d'ego. Et du coup, ça limite peut-être les risques d'être absorbé par l'IA ? Est-ce que c'est, ou est-ce que c'est une limite qui peut être saine, ou au contraire, est-ce que c'est ça qui la rend flippante ?
Elle n'a pas d'ego pour l'instant, mais si on lui donne un corps et qu'elle communique avec d'autres IA qui ont un corps, il peut y avoir une espèce de création d'un ego ou d'un instinct de survie de l'IA. Mais pour l'instant, celles qu'on utilise, en tout cas, elles sont vraiment très très loin d'avoir un ego, d'avoir une conscience et un sens esthétique. Mm. Pour l'instant, ce sont des systèmes qui, en fait, sont très puissants. C'est des systèmes statistiques. C'est des statistiques. C'est de la prévision. Il prévoit la note d'après, quoi. Donc, rien à voir avec une conscience ou un ego.
Pour autant, je crois qu'il y a des IA, en tout cas des choses qui permettent, par exemple, de rentrer un texte et bah, dans le texte, il y a une phrase qui est nulle, qui sonne pas bien, qui est pas terrible. Et là, l'IA peut proposer d'autres choses, des alternatives, donc ouais. Qui sonnent mieux, qui sont plus intelligentes, enfin plus intelligentes, qui sonnent mieux en tout cas. Donc ça, du coup, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que ça rentre dans ce que vous disiez ?
Bah, c'est de la prédiction, en fait. C'est-à-dire que s'il y a une phrase qu'on n'aime pas et qu'on veut faire remplacer, bah toi, tu as utilisé un système qui s'appelle Poiesis, qui ouais. permet de remplir les trous.
C'est, tu vois, j'ai utilisé ça pour faire les paroles de la plupart des morceaux que j'ai sortis là, avec Wim Therapy. Ouais. Et où, en fait, je draftais un texte assez rapidement. Quoi, tu vois, mais je suis pas un très très bon auteur, très honnêtement. Tu vois. Donc, je draftais mon texte et puis, tu sais, parfois, je me retrouvais avec un paragraphe où j'ai trois phrases super et la quatrième tombe un petit peu à plat. Tu vois. Et donc, ce que je faisais, c'est que je demandais à cette IA de prendre en compte les trois phrases que j'ai écrites avant et de me proposer d'autres phrases en quatrième. Okay. Et là où c'était vachement intéressant, c'est qu'en fait, il y a plein de fois où elle n'allait pas forcément dans mon sens. Si, je te prends un exemple un peu caricatural. Tu sais, je suis un songwriter, chemise à carreaux, guitare, feu de camp, tu vois. Et je fais une chanson sur le fait que mon esprit est embrumé, donc je vais aller faire un tour au lac parce que j'ai besoin de me passer la tête sous l'eau, tu vois. Et en fait, parce que j'ai besoin de me passer la tête sous l'eau, je trouve ça un peu nul. Du coup, je dis, écoute, propose-moi d'autres choses. Et donc, tu sais, moi, je vais être un peu dans mon tunnel de me passer la tête sous l'eau. Donc, je vais chercher une formulation de me passer la tête sous l'eau. Et elle, ce qu'elle va me dire, c'est attends, mais t'es au lac, t'en as plein la tête. Peut-être profites-en pour aller faire du pédalo, tu vois. C'est, ou alors venir me proposer d'autres choses un petit peu comme ça qui vont, en fait, moi, me sortir du tunnel dans lequel je suis et dans lequel je suis bloqué, quoi, tu vois. C'est l'IA, c'est quand même avant tout, et c'est, je pense, ouais, ce qu'on ça, dit pas mal depuis le début. Ouais. C'est là pour sortir des automatismes, tu vois.
Et tu peux la programmer pour ça, d'ailleurs, parce que moi, j'avais fait un faux morceau de Eminem. Ouais. Où j'avais demandé à ChatGPT de faire un texte dans le style d'Eminem. Et le texte était, ouais, je suis le Big Shady, je sais pas quoi, je suis trop bien, j'assure, etc. Je lui ai dit, non, mais ça, c'est pas intéressant. Fais-moi un morceau d'Eminem, un texte d'Eminem, écris-moi quelque chose qui est inattendu ou il dirait pas ce qu'il dit d'habitude. Et elle m'a sorti un texte où il était pas bien, où il racontait qu'il avait le poids du monde sur les épaules et que c'était compliqué. Donc on peut aussi le programmer pour qu'il fasse des choses inattendues.
Okay, ouais, justement, il voilà. y a beaucoup de... Alors, ça s'appelle du engineering prompt, je crois. Justement, cette méthode de dire à ChatGPT, OK, maintenant, Chat, t'es un ingénieur de plus de 50 ans. Ça fait 30 ans que tu fais ce métier, d'accord ? Tu comprends ? Tu connais tout ce qu'il y a à savoir sur ce métier. Maintenant, conseille-moi. Et en fait, la manière de parler à ChatGPT, en fait, c'est soi-même quelque chose qui s'apprend, en fait. Il y aura probablement à l'avenir des professionnels de ça. Et c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire que tu demandes à ChatGPT de se mettre dans la peau, d'incarner un personnage qui va être capable justement de réfléchir comme telle personne. Est-ce que ça veut dire que ChatGPT, en fait, a quelque part scanné les réseaux neuronaux de Eminem ?
Non, en fait, c'est de la prédiction.
C'est de la prédiction.
C'est vraiment un système de prédiction. Hein. Donc, prédiction sur le langage, ça marche très bien. Et d'ailleurs, on va brancher de plus en plus de modèles là-dessus, hein, que ce soit pour la génération de textes, de musique, etc., parce que c'est très très bon, c'est très fort. Et là aussi, c'est très fort de l'autre côté.
Ouais, c'est très fort, là, sur la scène du chapiteau, je crois qu'ils sont en train de faire des balances, voilà, ici même, à Terre du Son. T'as encore une question, Mélissa ?
Question à 10 balles. Non, je réfléchissais juste à ce que tu demandais tout à l'heure sur l'idée du genre. Il me semble qu'on peut acheter des voix. En fait, tu peux acheter la voix d'une artiste si tu es un artiste et en fait l'utiliser pour lui faire chanter tes textes. Donc en fait, tu chantes, enfin tu fais chanter, je sais pas comment dire d'ailleurs, tu chantes avec la voix d'eux ou alors tu fais chanter ton texte à une artiste.
Mais tu sais qu'il y a deux jours, dans le même thème sur Instagram, j'ai vu qu'il y avait une publicité pour une boîte. Où en fait tu lui écris un texte, d'accord, et en fait ça sort la tête d'une dame qui va parler et dire le texte, et en fait on dirait qu'elle a été filmée comme si c'était possible. C'était assez flippant. Qu'est-ce que vous en pensez quoi ?
C'est le transfert de timbre, ça marche super bien. Ça marche très bien. Et ça marche pour la voix, pour le chant. Grimes l'a fait. Elle a créé une technologie qui s'appelle ElfTech. Et elle partage 50% des revenus de toutes les chansons qui sont faites avec cette voix ElfTech. Et d'ailleurs, j'ai sorti un titre il n'y a pas longtemps, Océan Noir, avec sa voix. Donc j'ai fait un duo avec une espèce d'IA. Donc ça marche très bien. Mais pour la chanson, en fait, on est obligé de chanter quand même. Je ne peux pas demander, par exemple, à Grimes de chanter la chanson à ma place. Il faut que je chante et après, je remplace mon timbre.
C'est comme le deepfaking où justement on a besoin d'une vidéo de base sur laquelle on vient coller justement la tête de Staline et Hitler pour justement cette vidéo qui tourne sur internet de Video Kills the Radio Star. C'est en accès libre ce genre de voix.
C'est en accès libre, oui, c'est parce que vous disiez que c'était payant, mais non, c'est gratuit.
C'est gratuit.
Oui, c'est gratuit. Et il y a un site qui s'appelle UberDuck que je vous conseille, enfin, ça peut être marrant d'expérimenter. On peut prendre, c'est un voice to voice, donc on peut chanter ou parler, et on peut prendre la voix de Freddie Mercury. Il y a plein de voix différentes. C'est gratuit. Bah, après, on peut pas utiliser la voix de Freddie Mercury et puis la sortir sur YouTube ou je sais pas quoi.
Ouais.
Parce qu'on utilise la voix, on utilise l'image de Freddie Mercury là. Mais on peut juste s'amuser déjà et puis expérimenter.
Parce que justement, j'allais dire pour la postérité, imagine en 150 ans, on se retrouve avec toute la discographie de Freddie Mercury. Il y a 10 titres en trop. Comment est-ce qu'on fait pour savoir justement que ça a été généré par intelligence artificielle et que c'est pas juste un gros fake ou c'est la réalité ?
Alors c'est quoi ça ? J'en ai parlé un peu avec les potes de Sony récemment. Apparemment, ils sont en train de bosser sur vraiment des outils de pouvoir dire ça c'est vrai, ça c'est IA et apprendre à vraiment reconnaître, aucune idée de comment ça fonctionne et s'ils vont y arriver, mais ils sont sur le dos quoi.
Parce que finalement, il y a les mêmes logiques que de notre côté en journalisme ou en journalisme en fait. Là, ça devient de plus en plus compliqué de repérer la fake news en fait. Donc c'est pareil en musique et c'est aussi dans les tuyaux de Sony.
Ouais. Je sais qu'ils bossent dessus. Après, je ne sais pas dans quelle mesure c'est officiel, on a le droit d'en parler.
Bah, c'est chaud quand même, parce qu'ils prévoient un truc sur une technologie qui... Enfin, ils essaient d'inventer une technologie qui est de toute façon obsolète par rapport à ce qui se fera dans 10 ans. Donc, il y a un côté un peu fou dans cette histoire, mais c'est marrant.
Alors justement, parlons un petit peu de l'avenir. C'est quoi les futurs projets chacun de votre côté ?
Je t'en prie.
Moi, je vais continuer. Je continue à expérimenter, à travailler avec les chercheurs et puis à faire mon chemin là-dedans et créer des outils. Parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est à la fois créer des outils et puis m'en servir dans la vraie vie, quoi. C'est cette balance-là. Et puis d'aller toujours, d'essayer toujours de chercher quelque chose de nouveau là-dedans. Le but étant toujours d'aller, en fait, de poursuivre mon chemin esthétique, en fait. Voilà. Donc je continue. Je vais sortir tes titres au fil du temps.
Où est-ce qu'on retrouve ton travail ?
Comment ?
Où est-ce qu'on retrouve ton travail ?
Partout, sur toutes les plateformes, sous le nom de Skige, Skyge, Skige.
Skige.
Selon les langues, les pays.
Exactement.
Selon l'appartenance.
Et toi, Jérémy ?
Et pour moi, écoute, je suis dans une série de releases où j'essaie de sortir un morceau toutes les 6 semaines. Depuis un petit mois, j'ai la 3e qui est sortie il y a 2 jours. Là.
Ok.
Et puis en fait, je voulais faire ça à la base sur 6 morceaux. Et plus ça avance, plus je me dis que je vais faire ça toute ma vie. Parce qu'en fait, c'est trop bien, tu vois. Ça permet d'avoir une actu un peu permanente et on va dire le vrai projet de fond. En fait, je mène un peu une espèce d'expérience. Qu'est-ce qui se passe quand on développe un projet artistique sans compromis et qu'avec des potes autour ? Est-ce qu'on peut quand même y arriver ? Tu vois, qu'il y a un peu une question que je me pose, notamment depuis que je bosse avec des majors et qu'on m'explique que c'est le seul chemin possible. J'ai envie de voir ce qui on va à contre-courant, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Okay.
Et donc, j'essaie d'aller le plus loin possible à contre-courant pour voir jusqu'où ça mène.
Et pareil, où est-ce qu'on retrouve ton travail ?
Sur toutes les plateformes, partout. Mettez-vous bien, les gars.
Voilà, sous le nom de Wim Therapy. D'ailleurs, Wim, j'ai regardé, ça veut dire caprice, lubie, fantasy. Ouais. Et donc, t'es en thérapie. T'avais besoin de te soigner avec des caprices.
C'est quoi ? C'est marrant parce que donc, quand j'ai voulu démarrer mon projet, je suis en micmac avec Sony depuis un moment. Mais tu sais, cool. On est en très bon terme, tu vois.
Ouais.
Et donc, à la base, donc, dans Divaphone, ça marchait bien, tu vois. Et puis, j'ai dit, j'ai envie de faire un nouveau projet, quoi, tu vois.
Ouais.
On dit, mais Jérémy, serait bien si plutôt tu t'investissais plus dans Divaphone. Et ce serait bien que t'arrêtes un peu tes caprices. Du coup, je dis, regarde-moi bien, tu vois. Et du coup, j'ai créé Wim Therapy.
Excellent. Benoît, tu voulais rajouter un mot ?
Non, mais justement, sur le côté aujourd'hui où on peut être artiste en utilisant toutes ces nouvelles technologies, c'est aussi sur l'image, la vidéo, etc. Il y a des outils qui sont extrêmement puissants et qui permettent vraiment à un artiste de tout contrôler.
Ouais.
Donc ça, c'est une des nouveautés. On en parlait d'ailleurs avec Jérémy. Sur l'intérêt aussi d'utiliser tout ce qui existe en dehors de la musique pour développer son propre projet esthétique.
Son propre univers et toutes ces choses-là. Ouais. C'est vrai que tu sais, il y a une image que j'aime beaucoup, c'est finalement quand tu veux faire un tableau, s'il y a 10 personnes qui sont sur la toile, t'auras pas le même résultat que si tu le fais tout seul, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression que l'IA peut aussi permettre ce genre de choses, ouais.
Et bien, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle Jérémy Benichou de Whim Therapy, qui est ton nouveau projet donc après Divaphone, yes. Et Benoît Carré, donc Skig.
Voilà, on va y arriver.
Donc merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de Terre du Son, et merci Mélissa d'avoir été avec moi pour co-animer cette interview.
Eh bien, de absolument rien, et surtout merci à toi d'avoir accepté de faire cette interview avec ces deux super invités. On remercie évidemment l'association qui porte le TEDx Tour de nous les avoir envoyés. Merci.
Merci à vous.
Merci Mélissa Erwan. Salut.
Merci.